Bienvenue dans Venue d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Latifa Shey, romancière, autrice, née à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, au cœur d'un quartier populaire. Latifa vient d'un territoire qu'elle n'a jamais quitté des yeux, fille d'une famille franco-marocaine marquée par l'exil, les silences et les luttes invisibles. Elle investit la littérature comme un espace de résistance et d'émancipation. Avec C'est pour demain, publié chez Hello Édition, elle signe un roman puissant où se croisent identité, filiation, mémoire et espoir. Un roman qui questionne aussi sur ce que l'on hérite, sur ce que l'on transmet et ce que l'on peut encore réinventer ensemble. Latifa Shey nous raconte son histoire. Latifa, est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance à Romans-sur-Isère? Quand vous repensez à cette ville, vous pensez à quoi?
Je pense à tout l'amour que mon père et ma mère m'ont donné, la droite et la gauche de mon cœur. C'est instantanément à cet endroit-là que je suis. Pas un lieu spécifiquement, mais un sentiment de bien-être et cet amour inconditionnel qui m'a amené jusqu'ici devant vous.
Est-ce qu'il y a des images, des ambiances, des souvenirs précis qui vous relient à cette ville?
Complètement. C'est d'ailleurs l'objet du livre « C'est pour demain », mon roman, dont l'objectif est aussi de rendre hommage à cette ville qui m'a vu naître et grandir et dans laquelle j'ai installé le personnage de Zahra Layoun, personnage principal, donc natif de Romans-sur-Isère, qui va être une des solutions aux défis de notre pays.
Pourquoi vous êtes si attachée à ce territoire?
Parce que c'est ma ville, parce que j'y suis née, parce que j'ai le sentiment qu'elle m'a beaucoup apporté. Et je suis très heureuse de pouvoir lui rendre hommage à travers mes écrits.
Est-ce que, selon vous, c'est des territoires dont on ne parle pas assez, et notamment les quartiers populaires qu'on peut retrouver?
C'est aussi ce qui a motivé mon écriture. Évidemment, ce sont des territoires qui sont pleins de vie, qui ont des histoires magnifiques, notamment celle de la ville de Romans-sur-Isère, dans laquelle je parle à la fois de son patrimoine gastronomique, de son patrimoine culturel. Je parle aussi de sa longue histoire avec la chaussure. Et c'est une façon non seulement de la faire connaître, mais oui, de faire connaître toutes ces villes, tous ces territoires qui font aussi la grandeur de la France.
Latifa, vous êtes née dans une famille franco-marocaine entre plusieurs héritages. En grandissant, comment est-ce que vous vivez avec cette double culture? Est-ce que vous la subissez, vous la vivez comme un tiraillement ou au contraire, c'est une richesse pour vous?
Très clairement une richesse, il faut le savoir. C'est pas forcément évident au départ, notamment quand on commence à se poser des questions à l'enfance ou à l'adolescence, mais c'est très clairement une richesse. Je suis à la fois 100% française et 100% marocaine, ce qui me permet de puiser dans mes deux cultures chaque fois que j'en ai besoin. C'est vrai que c'est aussi, moi, ce qui motive les interventions en milieu scolaire, c'est de pouvoir transmettre l'amour de ces deux cultures sans être dans un conflit de loyauté comme certains voudraient qu'on le soit.
Donc vous vivez pleinement?
Pleinement.
Vous avez été élue très jeune, donc engagée en politique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager et pourquoi la politique, elle est arrivée à ce moment-là de votre vie?
Alors, j'ai un modèle d'engagement, c'est mon père. Il nous a toujours initiés à l'actualité, à la politique. Il a lui-même été délégué, à l'époque, délégué du personnel. Donc, nous avons un cœur dans la famille, nous avons un cœur et le souci de l'autre, de son voisin, de sa famille, de ses collègues de travail et celui du lieu dans lequel nous vivons. Le premier modèle d'engagement que j'ai dans mon milieu familial, c'est mon père. Et il m'a, d'une certaine façon, initié à la politique. Et il se trouve que la ville de Romans-sur-Isère, quand j'avais 23 ans, avait besoin, en constituant une liste de personnes qui représentent l'ensemble de la ville, j'ai fait partie de ces femmes et de ces hommes, bien que j'ai été très jeune à ce moment-là, impliquée dans les élections municipales de la ville de Romans-sur-Isère en 2008, après un grand rendez-vous politique qui était celui de 2017 pour les élections présidentielles, où j'avais espoir qu'une femme puisse être à la tête de notre pays.
Et avec du recul, qu'est-ce que cet engagement il vous a apporté humainement et qu'est-ce qui vous a parfois coûté sur le plan personnel?
C'est tout ce que je raconte dans le premier de mes livres qui s'appelle « Sois une femme, ma fille » d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale. Il s'est passé énormément de choses, notamment des rencontres incroyables qui m'ont aidée à grandir très vite, à comprendre l'environnement dans lequel je vivais, à comprendre comment être une actrice aussi pleine et entière de ma citoyenneté et de ma ville et de mon territoire et même de mon pays. Et à travers ces rencontres, il y en avait des moins heureuses qui m'ont aussi appris à rester déterminée et à me rappeler ce pourquoi je m'étais engagée, la solidarité, la fraternité, la lutte contre les racismes et l'égalité entre les femmes et les hommes notamment, et la reconnaissance pleine et entière des familles comme les nôtres.
Vous voulez dire quoi par des familles comme les nôtres ?
Des familles comme mon père et ma mère qui ont tout quitté au Maroc, qui ont quitté une situation sociale, bien que modeste, pour arriver dans une France à reconstruire et qui ont donné toute leur vie pour que ce pays puisse renaître.
Donc vous êtes autrice hein, du roman « C'est pour demain », c'est une fiction politique, un livre qui ressemble à votre parcours et qui a traversé par l'idée d'espoir malgré les fractures. Pourquoi ce livre ?
Pour l'espoir qu'il apporte justement, parce que la littérature a toujours été pour moi une ouverture sur le monde. Elle permet justement aux esprits de s'évader, d'imaginer, de créer et d'imaginer d'autres possibles. On est dans un environnement économique et social qui est assez anxiogène, très clairement, et offrir par le biais d'une histoire, d'un personnage qui ressemble à énormément de Françaises et de Français, la possibilité d'imaginer une France autrement, eh bien, c'était ma participation citoyenne justement à cette régénération positive, à cette régénération citoyenne, à cette régénération politique, bien que le livre ne soit pas politique au sens partisan du terme.
Est-ce que c'est une vision idéalisée de votre monde parfait ?
Non, c'est une proposition. C'est une invitation à imaginer autre chose, d'où le titre « C'est pour demain ». Demain, c'est quelque chose à la fois qui est dans un futur, mais dans un futur qui est proche, que l'on peut quasiment toucher du doigt.
Est-ce qu'à travers ce livre, il n'y a pas aussi une volonté de mettre en lumière les récits de vos parents, en fait des récits qui nous ressemblent ?
Oui, puisque mon livre est, dans son architecture, composé de trois parties. Il est une métaphore d'un arbre, les racines, le tronc et les fruits. Les racines sont celles, justement, qui rappellent l'existence de ces hommes et de ces femmes qui ont tout quitté de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont laissé leur famille. Je raconte ces moments-là, des moments très, très touchants, très intimes, très personnels. On prend le temps est lent. C'est à travers d'abord ce point de départ-là que tout peut se décliner et que Zara peut nous raconter qui elle est et comment elle va intervenir malgré elle au départ pour justement arriver dans cette France, celle d'aujourd'hui que nous connaissons, grâce à sa construction de femme, donc le tronc dans la deuxième partie, et enfin le déploiement de ses feuilles et de ses fruits qu'elle offre et qui est résumé en un seul mot, la fraternité.
Est-ce que Zara, c'est pas un peu vous quelque part ?
C'est moi, c'est vous, c'est Adjira qui nous reçoit dans sa librairie. C'est tous ces hommes, toutes ces femmes qui font tous les jours la France et qu'on ne regarde pas forcément, en tout cas pas à sa juste valeur. Ce sont des bâtisseurs, des bâtisseuses de l'ombre, des hommes qu'on ne voit pas, qu'on ne considère pas forcément. Il était important pour moi de rendre hommage à eux, à ces personnes-là. Et comme je le dis très souvent, oui, c'est un hommage aussi à mes parents parce qu'ils m'ont énormément apporté. Et à travers l'hommage de mes parents, un hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes.
Vous parlez de vos parents, ils ont une place très importante dans votre vie et dans votre parcours. Est-ce qu'ils ne se sont pas aussi un peu sacrifiés pour vous ?
Ils ont tout donné pour nous. Moi, je le résume de la manière suivante. Mon père et ma mère nous ont élevés au-dessus de l'impossible. Quand on regarde ce avec quoi ils sont arrivés, dans quelles conditions économiques et sociales ils ont vécu, ça relève quasiment du miracle, tant la détermination qui était la leur à nous porter au-dessus de ce qu'eux, ils ont fait, était incroyable et force le respect. Alors oui, c'est un hommage du début à la fin de mon livre. Alors, je dirais pas sacrifice, mais à leur pugnacité, parce que c'est aussi ça. C'est aussi le récit de leur détermination.
Une détermination dont vous avez hérité.
Oui, et qui coule dans mes veines.
Latifa, on parle souvent des réussites, beaucoup moins des renoncements. Est-ce qu'il y a un échec, un détour, une désillusion qui vous a finalement transformé, qui vous a aidé aussi à avancer ?
La réussite, faudra la déterminer. Mais il y a eu un moment dans ma prime enfance où j'ai rencontré, sans pouvoir le nommer, ce que l'on appelle le racisme. Et cette rencontre du racisme, je l'ai faite dans une mauvaise veine d'école de la République, avec une enseignante qui a voulu distiller une idéologie. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre du racisme. Et je crois qu'à l'âge de 9 ans, c'est quelque chose qui est difficile à nommer, qui marque. La preuve, c'est que j'en ai longuement parlé et que j'en parle encore aujourd'hui. Il y a eu sans doute quelque chose à ce moment-là qui s'est passé. La compréhension de la différence. Une différence qui était, on va dire, hiérarchisée. Et je pense que ça a joué un rôle dans ma construction de citoyenne française.
Vous parlez du racisme tout à l'heure, vous avez parlé du contexte politique ambiant. Est-ce que ce contexte politique, il vous a pas aussi poussé à rédiger ce roman ?
C'est pour demain est aussi un cri d'urgence au regard de la situation que nous traversons et tous les défis qui sont aujourd'hui les nôtres pour réussir à garder ce lien de fraternité et à ne pas continuer comme le voudraient les semeurs de haine et de division qui sont en roue libre 24 heures sur 24 dans les chaînes dites d'information. C'est ma façon à moi de dire, on arrête là et on regarde la réalité des choses. La réalité des choses, et même dans ce que j'ai vécu et ce que je vis dans mes territoires, dans les villes dans lesquelles j'ai pu vivre, c'est la fraternité, c'est la compréhension. Et c'est ça aussi dont il faut se rappeler. Les bâtisseurs de ponts, ils existent. Il faut simplement mettre la lumière sur eux. Et c'est ma contribution avec ce livre.
Est-ce que vous avez des inspirations, Latifa ?
C'est-à-dire ?
Est-ce que vous avez des personnes qui, à un moment donné, dans votre parcours, ont joué un rôle clé sur la personne que vous êtes aujourd'hui ?
Alors, je l'ai redit, mais je vais vraiment le redire parce que c'est important. On va souvent chercher des modèles dans les livres. Et on est ici pour cela aussi. Très clairement, des personnages comme Fatema Mernissi, comme George Sand, évidemment, elles ont marqué mon existence et je vais chercher de l'inspiration dans leur parcours et j'essaye de marcher dans leurs pas. Il y en a d'autres, évidemment, Gisèle Halimi, évidemment aussi. Mais mes premiers modèles, ce sont mon père et ma mère. Parce qu'on va chercher des modèles dans la littérature, dans l'histoire, etc. C'est normal, il faut le faire. Mais très souvent, on oublie de regarder celles et ceux qui vivent sous le toit que l'on partage depuis de nombreuses années.
Tout à l'heure, on parlait de réussite. C'est quoi, vous, votre définition de la réussite ?
C'est de se sentir bien dans ce que l'on mène au quotidien. Il n'y a pas, pour moi, d'échec qui n'apporte pas quelque chose dans le projet que l'on porte ou la vie que l'on a décidé de mener. C'est aussi le message que je porte auprès des élèves, que ce soit au collège ou au lycée. Et c'est, je crois, très important de ne pas figer la réussite sur un modèle en particulier. Ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel dans les choix que l'on fait, que l'on assume, à condition justement de pouvoir donner à cette jeunesse les outils qu'il faut, les instruments pour être des citoyens pleins entiers, épanouis, heureux, et qu'ils soient justement les acteurs, ils le sont d'ores et déjà, mais les acteurs de cette nouvelle France.
Vous, lorsque vous étiez plus jeune, vous rêviez de quoi ? C'était quoi votre métier de rêve ?
Je voulais changer le monde quand j'avais 9 ans. Je pense que j'essaie d'y contribuer par le biais de la littérature aujourd'hui. Et j'ai toujours rêvé d'écrire. Et c'est peut-être quelque chose que je n'avais pas osé verbaliser à l'époque. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours écrit. Et les événements qui ont suivi les élections législatives de 2017 m'ont amené pour plusieurs raisons à rendre public le récit de mon engagement politique, mais pas que, puisque Soit une femme, ma fille est aussi un monologue que j'adresse à ma mère, qui souffre d'une maladie neurodégénérative qui la rend complètement dépendante. C'était aussi une façon, justement, de mobiliser les esprits sur ce type de maladie et de ne pas passer à côté de ce type de choses aussi.
Vous avez dit que vous n'arriviez pas à verbaliser le fait que vous vouliez être écrivaine. Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'illégitimité à un moment donné ?
Non, je pense que c'est surtout qu'on se demande si ce qu'on a raconté va être utile ou pas. Et à partir du moment où j'ai compris que mon expérience politique et justement cette volonté de mettre la lumière sur les maladies neuroévolutives, là oui, la question de l'utilité m'est apparue de manière assez évidente. Et j'ai pu le constater sur le terrain puisque le livre « Soit une femme, ma fille » a été un succès dès son lancement. C'est plutôt la question de l'utilité, encore une fois, celle du collectif qui était au centre de ma réflexion et non pas celle de la légitimité. Ma légitimité est entière à dire, à raconter avec mes mots nos héros.
Beaucoup se sont retrouvés dans votre livre ?
Énormément. C'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais, cette réaction de la part des lecteurs. Il a continué, j'ai fait plusieurs fois le tour de France depuis le lancement en 2020. Et aujourd'hui encore, j'ai des demandes concernant Soit une femme, ma fille, des temps d'intervention en milieu scolaire, parfois aussi dans des cadres même en lien avec le soin, par exemple, mais aussi tout ce qui est autour de la citoyenneté, des formations dédiées justement à la citoyenneté, à l'empowerment, etc., à l'engagement. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, je pensais qu'il aurait une résonance autour de ma ville et de mon département, et certainement pas, non seulement en France, mais même au-delà de la France, en Belgique, en Espagne, au Maroc, au Canada et dans d'autres pays qui ont été là pour justement s'intéresser à cette histoire et finalement prétexte à les discussions au-delà de ce que j'avais pu imaginer au départ.
Et est-ce que selon vous, il y a assez en France de voix comme les vôtres ?
Est-ce qu'il y en a assez ? Il en faudra toujours plus, il n'y en a jamais assez. Il y a d'excellents écrivains, écrivaines qui racontent aussi leur parcours, qui portent des réflexions très justes, un regard sur la société, sur les parcours qui sont différents, qui parlent de ces sujets, de ces défis qui sont les nôtres. Et plus nous serons à le faire, et mieux ce sera.
Latifa, ce sera ma dernière question. Si vous deviez vous adresser à la Latifa adolescente, que lui diriez-vous aujourd'hui sur ce que demain lui a réellement appris ?
Une très belle question. Ah, je dirais, tu vas vivre de choses merveilleuses, t'es pas prête.
Merci beaucoup Latifa d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous.
C'était Latifa Chey, romancière pour Venue d'Orient. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.